Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Autour de moi, ce soir, en public, au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Lucille Gomeau, Lily Blum et Julia Gester pour parler ensemble de Parasite de Bong Joon-ho, Piranhas de Claudio Giovanesi, Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier, et puis il y aura un coup de cœur de Lily Blum pour la ressortie de Série Noire d'Alain Corneau. Et nous ouvrons cette dispute avec le film qui a reçu la Palme d'Or lors du dernier festival de Cannes, qui ne sera donc pas, se sera pas donc fait trop attendre en salle. C'est bien, parce que souvent on attend l'automne pour découvrir les Palmes d'Or. On n'a pas la chance d'être au festival de Cannes. Là, il est sorti mercredi, Parasite de Bong Joon-ho, le cinéaste sud-coréen qui aura 50 ans en septembre, qui remporte donc la récompense suprême pour son 7e long métrage. 2 ans à être passé à aller sur la croisette avec un film qui avait fait polémique, Okja. Non pas pour lui-même, mais parce qu'il avait été ensuite directement diffusé sur Netflix. C'est avec, je dirais, son 2e film, Memories of a Murder, sorti en 2003, que l'attention s'était vraiment portée sur ce cinéaste. Attention maintenue, soutenue, avec des films comme The Host, Mother, présenté dans la sélection Un certain regard, déjà à Cannes en 2009, puis avec Snowpiercer, adapté de la BD de notre compatriote Jean-Marc Rochette, un film tourné essentiellement en langue anglaise. On va en venir évidemment à Parasite et dire que dans le dossier de presse distribué aux journalistes, il y a cette demande du cinéaste que je cite, enfin une partie d'entre elles. Quand vous écrirez une critique du film, quand vous en parlerez à la radio, là c'est moi qui le rajoute, je vous prie de bien vouloir éviter de mentionner ce qui va se passer après que le fils et la fille aient commencé à travailler chez les parcs. Tout comme les bandes-annonces s'en sont gardées. Alors on peut dire qu'avant cela, en tout cas on va découvrir une famille qui vit dans un entresol. Le père, la mère, le fils, la fille, aucun n'a de travail. On voit bien que la vie est difficile. Et à la demande d'un ami qui doit partir pour un séjour à l'étranger, un séjour d'études, le fils de cette famille va devenir le professeur d'anglais, professeur particulier d'une jeune fille, donc d'une très riche famille, les Parcs, en se fabriquant des faux papiers de l'université. Il est le premier à entrer dans la très belle maison. Je laisse pour l'instant 3 petits points. Et avant d'entendre cette bande-annonce qui ne nous en dévoilera pas trop, une première impression, comme vous aimez à le faire, Julien Gester, pour résumer votre impression sur ce film. Ouais.
Je dirais que c'est une très belle Palme d'Or, mais que je ne suis pas sûr que c'est un très grand Bong Joon-ho.
Lily Blum.
Moi, je dirais que c'est un film qui nous fait basculer d'une sidération à l'autre, au point qu'on a l'impression, un petit peu comme la famille des Parcs, de s'être fait avoir, mais on est heureux de s'être fait avoir.
Lucille Como, enfin.
Je dirais que c'est un film dense et un peu étourdissant avec ce que ça peut avoir de négatif.
Yo, 윗집 아줌마는 IP 타임 암호를 거셨다 드디어.
Wi-Fi도 다 끊기고.
어, 여기 있네. 쏟아지면. 와이파이를 줄까?
그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고.
이거 이거 옵션.
귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
대학생인 척 하라는 거야?
너 이 좋은 실력으로 왜 미대 맨날 떨어지냐?
아, 죽을래.
서울대학교 문수 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기둥이의 수석이 봐야겠다.
저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요.
참으로 시의적절하다.
풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you?
지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아?
Cette musique de bande-annonce n'était pas trop éloquente. ce que vous disiez hein, hors micro, Julien Gester. Et... je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire ou pas dire. Lily Bloom, pour commencer.
C'est difficile de ne pas spoiler.
Divulgue gâché.
Alors moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est il revient en Corée. Il revient avec un genre typiquement coréen du film de domesticité. Alors il cite Chabrol, il cite voilà la cérémonie, et on est pleinement dedans. On arrive avec lui et c'est comme si moi j'ai même pas trop son petit voyage américain. J'aime bien qu'il soit revenu dans sa langue, dans son pays, dans ses codes. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il a le film pose ses enjeux en quelques minutes, une dizaine de minutes.
Lesquels alors ?
Alors lesquels ? On a une famille pauvre née tout en bas de la ville. Alors ça sera intéressant. Il faudra y retourner. C'est l'utilisation, la cartographie de la ville et l'utilisation de l'espace. Née tout en bas dans les bas-fonds. Donc ce sont eux, a priori, les parasites qui vivent comme des cafards à la limite des égouts, qui vont trouver le moyen d'envahir une famille qui vit au paradis tout en haut de la ville, petit à petit, de manière très malicieuse. Alors au départ, on est avec eux, on s'amuse de leur malice et de la naïveté de la famille riche. Et puis, au fur et à mesure, l'étau va se refermer. Et finalement, dans ce film-là, il se concentre sur une narration très tendue, très, très, très musclée, qui ne nous laisse pas réfléchir, tout en nous gardant par la main, par une dimension ludique qui reste jusqu'à la fin. Et finalement, il a une force de frappe politique plus grande que dans certains de ses films précédents, où je trouvais qu'il y avait un peu un côté film qui a une bonne idée, film un peu à la mode, alors voilà, il y avait Okja avec le cochon transgénique. Et là, d'un seul coup, son propos est plus tendu et plus efficace, je trouve. Et l'utilisation de l'espace dans le film est totalement stupéfiante, notamment pendant des plans séquences qui sont d'apparence très simples, mais qui nous dévoilent tout l'espace. Et que ce soit l'ascension vers les parcs, donc la famille riche, ou la descente qui ressemble à une descente par tous les cercles de l'enfer pour redescendre dans les bas-fonds. C'est stupéfiant le maniement voilà, de la géographie de la ville.
Julien Gester.
Bah oui, je retrouve tout ça du film. Enfin, je trouve que c'est même un film qu'on pourrait résumer, y compris ce qu'il ne faut pas en dévoiler, à une dimension cartographique, vraiment géographique. C'est un film avec un plan. Un plan qui est celui du scénario et duquel vont découler justement les plans du film, des plans qui sont comme souvent, comme toujours chez Bong Joon-ho, extrêmement virtuoses, extrêmement construits, y compris dans le mouvement, à la fois ces travelling que décrivait à l'instant Lily Bloom, mais aussi même dès le départ dans l'exiguïté d'un sous-sol, des panoramiques très brusques et qui accouche de cadres extrêmes, enfin composés avec une extrême précision, presque un peu étouffante. Et c'est tout le paradoxe du film, je trouve, de faire preuve de tant de sophistication et en même temps d'avoir un côté un peu balourd. Je trouve qui est aussi celui de qui a un caractère, je trouve, hérité peut-être du périple international de Bong Joon-ho. Que pouvait avoir Snowpiercer, que pouvait avoir Okja, à l'image de son super cochon transgénique.
Énorme,
voilà, à la fois énorme, balourd et très gracieux. Ouais. Et ce film-là, justement, me paraît une forme d'état, de point d'étape, quelque part, d'autocompilation, où Bong Joon-ho ramasse un peu tous les éléments de son parcours, à la fois coréen et international, à domicile, en quelque sorte, sur son sol national. Et du coup, que les récompenses doivent toujours un alignement de personnes dans des jurys, de films à côté, de négociations, de tractations. Tout ça, au fond, pas très important. Mais c'est vrai qu'en un sens, cette palme lui va à la fois bien et mal à ce film, au sens où à la fois elle couronne un film qui coiffe toute une carrière, tout un parcours d'un cinéaste, je trouve évidemment surdoué, passionnant, mais dont en même temps cette pièce-là me paraît presque la plus normée, parce qu'elle a tous les caractères des films précédents, et en même temps elle n'emmène pas ça où que ce soit ailleurs. Et des films comme Snowpiercer ou Okja me semblait être des objets, peut-être des pièces plus bizarres, des morceaux plus étranges apportés à l'édifice de la filmographie de Bong Joon-ho, et où celui-ci, même, je trouve, Enfin, j'ai l'impression que même lui-même sait à la fois quelle brillance il déploie et qu'il bute contre quelque chose. Avec cette, le personnage parle souvent de métaphores dans le film, comme si justement la dimension fabulaire, allégorique du film, en même temps, butait elle-même sur, sur quelque chose qui serait une métaphore de à la fois tout et rien. Enfin, il y a une grande profondeur dans le film qui parle de la lutte des classes, ce que vous voulez. Et en même temps, on peut ramasser le film à la Corée, au monde, enfin, transposer ça à tout. Et en même temps, le film y perd un peu peut-être de l'acuité de son discours.
Mais ça correspond aussi à l'usage du mot de métaphore dans ce film-là, parce que quand c'est le jeune homme qui l'emploie, c'est pour masquer qu'il n'a rien à dire.
Évidemment.
Ouais. Non, mais je précise quand même. Lucille Comeau, qu'on n'a pas encore entendu sur Parasite.
Oui, je trouve que c'est un bon exercice critique, ce film, parce que c'est un film extrêmement dense et qui surtout propose lui-même des tas de grilles. Bon, il y a des films qui proposent une seule grille de lecture, donc ça ne nous intéresse pas. Là, ça m'intéresse quand même qu'il en propose
bon, voilà,
plusieurs.
Que ce soit clair pour tous les cinéastes.
Non, mais on parlera
on parle
après
de leur
de
film
Piranha,
pour le site du Comeau, ça ne suffit pas.
Non, mais là, il y a plein de choses qui sont proposées et ces grilles-là, c'est globalement une grille qui est narratologique qui est vraiment formelle, une grille psychologique parce que voilà ça respire ça, et puis une grille marxiste, et tout ça a en commun d'être de toute façon des sortes de sciences un peu tautologiques qui expliquent tout. Donc c'est ce que vous disiez, Julien, avec le procédé de la métaphore. Tout le film ne cesse de développer lui-même ses propres outils d'interprétation et on peut pas échapper à ça. On a l'impression que nous-mêmes en tant que spectateurs on peut pas y échapper. Moi je trouve ça assez intéressant dans la forme. Et finalement, vous parliez de fable, Julien. En effet, la forme de ce film, contrairement à ce que j'ai pu entendre à la sortie de la salle quand je suis allée le voir, c'est pas une comédie puis un drame. Je pense que beaucoup de gens le voient comme un film extrêmement binaire avec une partie comique et une partie dramatique. Or, c'est vraiment un conte et le conte contient de toute façon toutes les possibilités burlesques, les possibilités de cruauté qui sont dans le film. Sauf que ce que je trouve, et un conte, c'est une forme extrêmement fermée, donc c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue politique. Sauf que je trouve qu'il dépasse le conte, en effet, avec la question de l'espace, et pour le coup, qui est une question de cinéma, de ce qui fait de cette grande maison d'architecte où vit la famille Park et qu'incruste donc cette autre famille. Et il y a un moment donné qui est extrêmement situé dans le film, on peut pas trop décrire, mais où il y a une bouche sombre qui s'ouvre et qui aspire en quelque sorte le conte et qui nous fait rentrer dans l'histoire, là, pour le coup, d'un point de vue marxiste. Et c'est là que la lutte des classes commence. C'est pas avant. Avant, c'est du pur conte. En effet, le père le résume à un moment donné. Il dit « Ah bah, l'argent circule de notre maison à leur maison. » C'est extrêmement simple. C'est une mécanique binaire. Sauf qu'à partir du moment où cette famille donc de pauvres se retrouve confrontée à l'autre pauvre, parce que c'est ça quand même, là, ça complexifie la question. Le vrai enjeu de la lutte des classes, il se joue là, vraiment à ce moment-là. Et là, je trouve quand même que ça produit un sens politique qui est assez fort, qui en effet dépasse probablement le contexte coréen et la forme du film sur la domesticité qu'on connaît en Corée du Sud. Mais moi, ça m'a fait réfléchir réellement à, disons, même si c'est très théorique, l'application au cinéma par la question de l'espace, par la question du cadre, de l'image, d'une théorie marxiste, oui.
Mais il n'empêche, si c'est pas aussi binaire que ce que vos camarades de salle en ont dit, il y a quand même ce moment de bascule qui fait que malgré tout, qu'on a quand même le sentiment que le film bascule aussi de façon très, très claire. Et de fait, moi, ce qui m'a posé problème, c'est la question du rythme dans ce film. Parce qu'il me semble que la comédie en manque, que le drame en a trop, et que du coup, ça y a une forme de déséquilibre dans le film que j'ai trouvé, moi, quand même beaucoup trop long. Je vais mettre un peu de bémol parmi cette assemblée, d'ailleurs, qui est assez mitigée, quand même, malgré tout. C'est pas, vous ne criez pas tous... Nuancé, c'est le mot que je cherchais, merci, Julien. Mais c'est un film que j'ai vu alors mercredi soir dans une salle bondée à 22h à Paris, ce qui est quand même signe qu'il y a une demande, il y a une attente, et qui déjà commence un tout petit peu à faire son chemin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, vous deux, revu depuis Cannes, mais en tout cas, je pense que c'est un film qui gagne un peu avec le temps, parce qu'il a pu me décevoir au moment de la projection, parce que je voyais bien une virtuosité de chacune des séquences. Vraiment, si on prend chaque scène, elle est une sorte de perfection chorégraphique, de qualité d'écriture, etc. Mais il y avait quelque chose qui ne, qui pour moi n'était pas lié et qui était trop artificiel, trop lourd dans la mécanique. Je trouvais qu'il y avait la mécanique de répétition, qui est une mécanique de comédie, était là. Mais les rouages étaient un peu grippés. Est-ce que vous avez un sentiment qui a un peu évolué sur ce film, l'un ou l'autre?
Moi, j'ai vu deux fois aussi. J'ai vu au retour de Cannes pour me refaire une idée. Et moi, la dimension plus politique et plus mélancolique m'a touchée. Parce qu'effectivement, quand on voit le film pour la première fois, il y a un effet de sidération. La forme prend le dessus sur le fond complètement. Et effectivement, j'ai eu peut-être l'impression de m'être fait avoir. Et quand je l'ai revu, je suis revenue sur cette idée-là. Alors, je trouve tout de même qu'il y a effectivement une bascule, un point de bascule qui arrive comme un effet biblique avec une inondation. Alors, ça pourrait maladroitement parler du ruissellement, le fameux ruissellement des parcs vers les pauvres. Mais effectivement, dans sa deuxième partie, quand ça se complexifie, le rire qui devient terrifiant, parce qu'on n'a pas parlé de l'humour, mais il a un humour très spécifique, et qu'il utilise dans une première partie pour éviter les effets de pathos. Par exemple, il y a une scène où il cherche, au tout début du film, où il cherche le wifi, et puis il le trouve très à côté des toilettes qui vont déborder d'ailleurs de manière horrible à un moment, et finalement ça devient burlesque, et ça évite le pathétique vraiment dérangeant, voyeuriste de cette scène-là, et on passe, et finalement l'émotion nous atteint malgré nous, avec l'accumulation des séquences. Et c'est ça que je trouve intéressant.
On n'a pas l'air d'accord, ouais, Lucille Comeau.
Non, je ne suis pas d'accord à nouveau sur la binarité. Par exemple, le ruissellement, en effet, cette scène des toilettes, elle annonce le fameux déluge qui va arriver à la fin. Et la gravité et la complexité sociale, elle apparaît très très tôt dans le film. Tout au début, ça on peut le dire, il y a une scène, en fait, ce qu'ils font pour gagner leur vie au départ, cette famille, c'est de plier des boîtes de pizza qui sont ensuite récupérées par les fabricants de pizza. Donc eux, ils sont vraiment au bout de la chaîne, ils ne font que plier des boîtes de pizza en carton. Et ils veulent gagner, enfin c'est des parasites, donc ils veulent gagner sur tous les terrains, c'est ça qui est assez intéressant. Et donc du coup, la patronne vient les voir, elle leur dit « Ah non, mais là ça va pas, c'est pas bien plié votre boîte, on va vous virer, ou je sais plus, on va vous donner moins d'argent. » Et ils disent « Ah mais vous savez que l'autre employé qui est comme eux, qui est leur classe, le représentant de leur classe, lui il fait encore pire que nous, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais bon, il déconne. » Et donc du coup, il le balance, enfin il le dénonce à la patronne. Et du coup, la question de la complexité des rapports sociaux, de ce que ça veut dire être un parasite et pas seulement sucer le sang des riches, elle se pose déjà au début. Il y a déjà une forme de gravité et une forme de complexité dans les enjeux. Tout ça se relie évidemment à l'aune de la deuxième partie, si on peut parler de deuxième partie. Moi, je le trouve vraiment complexe. Je vois pas la pliure, je vois pas le surgissement de la violence ou de la complexité. J'ai l'impression que tout ça se tient vraiment de manière assez cohérente. Il y a même presque une troisième partie, en fait. C'est tout ça, c'est très dialectique, finalement.
Julien Gester, peut-être pour conclure.
Non, mais je rejoins Lucie sur le fait que j'ai le sentiment que tout est là en germe dès le départ.
Je n'ai pas dit le contraire.
Que le plan elle-même, mais qu'il en déplie des pans, en un sens, de la même façon que tout se dédouble peu, au fur et à mesure du film. On a une famille, on en trouve deux. On a un sous-sol, on en trouve un deuxième. Et c'est une dynamique du cinéma de Bong Joon-ho depuis toujours, enfin qui l'inscrit lui dans la polysémie même de ses titres. C'était à l'époque de The Host, il y avait cette question vraiment de qui, déjà avec la cette ambiguïté du mot hôte, de qui est l'hôte de qui entre la créature et la gamine dans son ventre et la société autour, etc. Et ici évidemment on ne sait plus très bien assez vite qui parasite des riches, des pauvres, qui à l'intérieur de cette grande demeure bourgeoise qui paraît être une sorte de qui est la scène centrale du film. Qui au fond appartient vraiment cette maison, qui en est véritablement l'habitant, entre ceux qui la font tourner, ceux qui l'habitent plus ou moins confidentiellement, plus ou moins masqués, ceux qui en paient le loyer ou en ont payé le prix à un moment donné, mais qui n'en maîtrisent beaucoup moins les recoins que ceux qui parfois y résident depuis plus longtemps, comme cette gouvernante qui était déjà celle de l'ancien propriétaire. Et donc tout au fond, je pense, de ce jeu, de ce qui devient un jeu de massacre ensuite, est déjà là en germe dès le départ.
Bien sûr.
Y compris dans la caractérisation de ces deux familles, parce qu'il pourrait y avoir une binarité un peu simpliste de la manière d'appréhender ces deux familles entre les pauvres, les riches, ceux qui sucent le sang des autres, sans qu'on sache très bien qui. Mais au fond, le trait est le même. Le sujet, au fond, de le héros de de tout film de Bong Joon-ho, au fond, ce n'est pas une famille plutôt que l'autre, c'est l'idée même de la famille. C'est des règlements, ce qu'elle contient, les liens qui l'attendent, et c'est ce qui, tout ce qui peut s'y jouer de, à la fois d'ordinaire et d'absolument extraordinaire comme force motrice à l'intérieur.
Les derniers mots, vraiment, Lucille Comeau.
C'est ce qui finit par se jouer, c'est la question de la famille contre la classe. Et bon, moi, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est que c'est, on entend beaucoup que c'est un film jubilatoire, c'est un mot que je déteste.
Bon
ça, oui. Sur, parce que c'est un film de vengeance sociale. Or, ce n'est pas du tout un film de vengeance sociale, ça dépasse largement ça. Et du coup, d'un point de vue cinématographique, c'est ce qu'on peut faire de plus convaincant, je pense, vraiment sur, encore une fois, sur la représentation de la lutte des classes. Je trouve ça assez passionnant.
Je suis d'accord avec vous, Lucille Comeau. On conclut là-dessus. On parlait de Parasite de Bong Joon-ho qui est dans les salles françaises depuis ce mercredi, parce que nous avons encore un riche programme. On va parler de Piranhas, d'Être vivant et le savoir, et de Série noire.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et la suite de cette dispute cinéma en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, avec Piranhas de Claudio Giovanesi. Il s'agit de l'adaptation du roman de Roberto Saviano, son premier roman. Il a été ensuite rendu célèbre pour Gomorra. Son sujet dans Piranhas, c'est la naissance des baby gangs, ces bandes de 13 jeunes gens fascinés par les parrains de la Camorra et qui voudraient bien s'en attribuer peut-être les codes, l'image, le pouvoir, l'argent. On va en parler. Mes premières impressions sur ce film, Lily Bloom.
Eh bien, c'est un film qui m'a enthousiasmée dans un premier temps par son élan de jeunesse et qui finalement m'a laissé une odeur un peu de naphtaline. Enfin, je l'ai trouvé un peu ringard sur la fin.
Lucille Comeau.
Moi, je pense que c'est pas facile de faire un film fasciné sur la fascination.
Julien Gester.
Je crois que c'est le film au titre le plus mensonger de l'année, puisque j'espérais un remake du film de Joe Dante, ou des poissons. Enfin, voilà, j'avais un peu envie d'aller à la mer ou en Amazonie, et vraiment, on m'a rien proposé de tout cela.
Se torni estriano, uno dei boss più forti di Napoli. Se oggi metterà paura un gufo nei genti.
Siamo Michele Estriano. Io sono un fan.
Io tengo bisogno di sotto. Stiamo faticando.
E che pulizia fuori, il gelo che li danno. Ha diventato uno di loro. Non l'ha mai dedicato una mano.
Si faciti bravo. E soprattutto ti sta stando un danno di Estriano. E chi ti infame. La faccia per scrivere. Già
ci vado in Axi.
Nuovi giovani. Due quarti sono rimaste tre scene. Quindi scendi in me e te. Che mangi lui? E te insieme ci mangiamo.
Ma Vito, io sono venuto a capo che tieni i miei stessi nemici. Voi tieni dell'arma, ma tenete all'uomo.
Allora, c'è che mi hai creduto. Quando lo dico?
Deve che non ha due quarti erano nostri. I tacci.
Perché il sistema sta a mani e creatura, mo. Posti da pistola in da casa mia. Annazzi ai figli miei, la pistola.
Per rispetto e per l'onore, ma ci persi, compagno. Quando scende in mezzo a via, ora affianco a me, sai.
Allora, già, quand même rassurer celles et ceux qui comprennent, normalement, comme moi, l'italien, c'est quand même du napolitain et que les sous-titres sont plus que nécessaires, sauf si vous êtes vous-même napolitain, allez savoir. Mais bon, ça fait partie des, pour moi, des plaisirs de ce film, mais j'y reviendrai. Julien Gester, alors, pour commencer, pas de poisson.
Non, non.
Voilà,
heureusement, il y a le napolitain, c'est qui est une langue chantante. C'était le plaisir, en fait, vous disiez l'un des plaisirs, c'était le principal plaisir
d'accord,
pour moi de ce film.
Carrément.
Non, mais qui a, je trouve, une petite efficacité. Toute faite, mais que voilà qu'on rattache assez facilement à on voit une forme de projet se déployer assez rapidement qui est de s'inscrire à la fois dans une traînée qui est le Saviano movie, enfin c'est presque devenu un genre depuis le succès de Gomorra qui se décline en série en film. Je trouve pas que ces propos produit beaucoup de choses très très inspirées, enfin qui j'ai l'impression de voir toujours un peu des déclinaisons de la même chose, alors que le travail de Saviano
est déjà exaspéré évidemment, par vos propos, il faut le dire.
Mais j'exaspère naturellement en fait le Cicomo. Ouais.
En fait, la phrase juste est j'exaspère naturellement. Point.
Oui.
En fait,
continuez de me réinviter, c'est inexplicable. Mais il y a une forme de voilà. Ici, le twist, c'est que c'est une combinaison de Gomorrah et de la guerre des boutons quelque part. Ou une adaptation d'une chanson d'Ayam, je ne sais pas, mais et que tout ça pourrait être passionnant, mais je trouve que au final le film se perd très vite dans une manière de jouer un peu sur tous les tableaux, c'est-à-dire à la fois de vouloir dénoncer quelque chose ou déplorer quelque chose, donc cette fascination dans laquelle s'engouffrent très vite de jeunes gens qui sont pourtant spectateurs de tous les dégâts.
Très jeunes, hein, ils ont 15
très
ans.
Très jeunes, hein. Voilà, occasionnés par l'emprise mafieuse sur l'économie locale, sur leurs parents, sur le... Toutes les cartes sont abattues dès le départ. On voit ce que ça produit comme de meurtres, d'extorsions, d'économies pour le coup totalement parasitiques. Et en même temps, comment ces mêmes jeunes gens, très jeunes, se trouvent aspirés, s'identifient à ça par soif d'argent, de gloire, de réussite, de gonflage de mécanique, voilà. Et le problème, c'est que le film donc joue à la fois sur ce tableau d'une forme de déploration ou de dénonciation, et en même temps est totalement fasciné dans une forme d'identification ou d'exultation au diapason de ces personnages à chaque fois que ils peuvent brasser des billets de banque, rentrer en boîte, faire claquer les bouteilles. Sortir avec la miss ou la première dauphine de la miss du coin et avec quelque chose de toujours à la fois un peu voyeur et en même temps en jouant le dégoûté en sous-main qui moi me laisse assez froid, d'autant que le film n'a pas grand chose d'autre à proposer que ces deux dynamiques là que je trouve que la ville de Naples existe quasiment pas dans le film. Il y a vraiment, enfin, c'est évidemment, on évite
très simple de tourner un film adapté de Saviano à Naples. Non. Pour juste quand même faire cette parenthèse, bien qu'on risque sa vie pour faire du cinéma, mais à un moment donné, on rappelle que Saviano, sa tête est mise à prix et que tout ce qui le concerne de près ou de loin n'est quand même pas très bien considéré à Naples par celles et ceux qui pourraient s'en prendre aux équipes.
Mais je pense qu'il faudra à ce moment-là, enfin, adapter son projet, trouver quelque chose qui puisse vibrer dans le film. Enfin, j'ai toujours l'impression que tout se joue toujours un peu au premier plan, qu'il y a pas, il y a très peu de profondeur de champ, il y a très peu d'ambiguïté, de vertige dans le film, à part justement cette ambivalence constante dans son rapport à la fois à ce qu'il raconte et à ses personnages.
Lucille Gomo.
Oui. Non mais en fait je suis assez d'accord avec vous. Non,
il a reposé puis après a opiné.
Le style adaptation de Saviano, je suis pas d'accord parce que Gomorrah, pour avoir regardé un peu la série, pour le coup, il y a quelque chose de très différent par rapport à ce film-là. Bon, c'est aussi le format série, c'est que ça s'inscrit dans une lenteur et dans un effet chronique qui fait que il y a quand même une forme de réalisme qui aboutit à quelque chose d'un point de vue juste documentaire.
Sachant que Claudio Giovannizzi a réalisé, le cinéaste de Pierre Niasse a réalisé quelques épisodes de Gomorrah.
Voilà, ce que vous m'avez appris il y a une heure.
Mais moi, j'ai vu aucun épisode de Gomorrah, donc.
Gomorrah, c'est très dur à regarder parce qu'il y a en effet beaucoup de personnages qui ont l'âge des héros du film. Et moi, j'ai arrêté de regarder cette série parce que c'était trop insupportable, la violence. Alors que là, je m'en foutais complètement, il faut bien le dire, hein, du destin de cette bande. Je suis assez d'accord avec vous sur l'ambivalence. En fait, je pense que c'est plus qu'une ambivalence, c'est un énorme manque de choix qui se caractérise par le fait qu'il y a deux formes vraiment qui ne vont vraiment pas ensemble. Il y a en effet la forme naturaliste de la chronique sociale, donc qui colle à cette bande, il est tout le temps derrière eux. Et puis, mais ça se voit au bout de 5 minutes, il en choisit un qui est sublime, il faut le dire quand même, l'acteur, c'est une sorte d'ange incroyable.
Il s'appelle quand même Francesco Di Napoli, quand même extraordinaire.
Il colle un t-shirt avec des ailes en plus bleues, donc c'est un ange, enfin, c'est dit en 10 minutes, on sait que c'est un ange. Et donc il oscille entre la volonté naturaliste, en effet assez moralisatrice au fond, de dénoncer quelque chose, et le grand film romantique, et je te balance des références au Parrain 2. Enfin, il y a des plans, notamment un plan avec ce héros qui regarde, une fois qu'il a réussi, parce qu'il y a une forme d'ascension évidemment, il regarde du haut une rue napolitaine avec un marché en dessous. C'est un plan copié du Parrain 2 où De Niro regarde la fête à Little Italy. Enfin, on sent très bien que ce type-là, il est complètement fasciné par les films de mafia. Et ça ne fonctionne pas avec son projet. Il y a un énorme hiatus. Donc du coup, on hésite tout le temps dans ces postures-là. Il y a des scènes vraiment pas cadrées, hyper à l'épaule sur les personnages. Et puis, il y a des scènes hyper esthétisantes. Je pense à une scène notamment où il se retrouve dans un... Il circule tout le temps entre la très grande misère d'appartements miteux et des appartements incroyables, tout dorés, avec des sculptures de lions partout. Et il y a un plan où, d'un seul coup, la caméra est extrêmement stable. On voit toute cette bande de jeunes hommes. Ils ont limite des t-shirts raccord. Enfin, c'est absolument magnifique. Et ils comptent de l'argent. C'est limite s'il n'y a pas du ralenti. Et c'est un tableau. Sauf qu'en fait, entre ces deux esthétiques-là, il y a un problème éthique de regard, de point de vue, de qu'est-ce que je raconte de Naples, qu'est-ce que je raconte de ces jeunes hommes, qu'est-ce que je raconte aussi de ce qui est devenu la mafia napolitaine, parce que à part le fait qu'ils font des selfies et ils ont les dernières Nike, il n'y a aucune réactualisation des enjeux. La question sociale, elle a changé. Naples, c'est pas le même Naples que j'imagine il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça, on ne le voit pas, c'est accessoirisé, c'est juste la marque des scooters, les selfies, Instagram, mais sinon... En fait, on ne sait pas ce qu'il veut nous dire sur ces types-là. Moi, ça m'a vraiment posé des questions, même de politique, pour le coup. Je trouvais ça gênant à la fin.
Lily Bloom, sur Piranhas.
Je suis assez d'accord, vraiment, sur ce point-là. Il y a un problème de forme. Effectivement, il a une volonté d'aller vers le grand cinéma. On sent qu'il a lui-même une fascination pour le film de mafia, et ça rentre en contradiction avec son propos sur ces jeunes. Ça ne fonctionne pas, parce que le film se met à ronronner dans une certaine efficacité, mais on ne s'intéresse plus à l'aspect tragique sur un point de vue sociologique. Moi, ça m'intéresse ces baby gangs de ces jeunes qui finalement ils sont très proches des enfants qu'on retrouve dans Les Misérables de Leslie, parce que c'est finalement une jeunesse qui fait peur même aux mafieux, à savoir une jeunesse qui n'a peur de rien, pas de la mort. Leur seule peur, c'est d'avoir une vie normale. Alors qu'est-ce qu'ils veulent être? Ils veulent être footballeurs ou ils veulent être mafieux. Donc ils vont chercher à prendre une arme. Ce qui est intéressant dans le film, pour moi, c'est le quartier. Le fait que la police n'apparaisse qu'une fois lors d'un coup de filet un peu spectaculaire pour les journaux, et le reste du temps, elle n'apparaît jamais. Celui qui a l'arme, c'est celui qui a le pouvoir, et même à un moment, ils commettent un méfait, et c'est la mafia qui les rattrape. C'est la mafia qui fait la police. Et tout ça, moi, ça m'intéresse dans la chronique de quartier abandonné à ses enfants. Je repensais, en fait, à Michel Tournier, qui disait que c'était pas les enfants qui jouaient à la guerre comme les adultes, mais c'était les adultes qui n'arrivaient plus à jouer à la guerre comme aux enfants et qui jouaient trop sérieusement. Là, c'est des enfants qui jouent trop sérieusement à être des mafieux. Si on leur mettait pas des armes dans les mains, ils deviendraient des enfants assez normaux. Le film commence comme ça. On fait une cérémonie où on sacrifie un sapin de Noël, donc symbole de l'enfance par excellence. Ils sacrifient ce sapin de Noël, et à partir de là, ils vont réinventer une enfance malade, mais qui est malade parce qu'il y a une vacance. Il n'y a pas de structure. La société italienne est complètement atomisée. Et dans ce vide, et ben voilà, ils vont chercher des repères dans des mythologies un peu fumeuses de mafieux, d'anciens dons. Et le film, je trouve sa limite dans ce qui est son intérêt aussi, à savoir voir un vieux Don Vito qui joue à la Wii dans son salon, à la PlayStation, ou je sais
pas
quoi.
Dans la cité des marques.
Non, mais je sais plus. Précis, il joue un espèce de jeu de survie, quoi. C'est rigolo un instant, et en même temps, ça montre que c'est passé, que c'est un peu ringard, en fait, le film de mafia, et que si on le réinvente pas, si on n'éclate pas la forme, pourquoi faire un film dessus? Un nouveau film dessus après, effectivement, Gomorra et ces films-là qui déjà avaient démystifié suffisamment la mafia.
Alors, il y a plein de choses à répondre, évidemment, à vos propos, parce que moi, j'ai vraiment plutôt aimé ce film. D'abord, il faudrait quand même revenir au livre de Saviano, à l'époque où il a été écrit, au fait que ce soit le premier livre de Saviano, la première fois où il a dévoilé certaines des coulisses dans la façon dont Naples était tenue, alors par les grands, mais par les petits aussi. Mais je crois, il me semble surtout que ce film, c'est le portrait d'un jeune homme, donc cet acteur qui s'appelle Francesco Di Napoli, parce que le film est quand même à la hauteur de son regard tout du long, et c'est lui qui regarde, et c'est lui qui fait de l'esthétisme aussi par moment, parce qu'il est dans l'image qu'il avait rêvé d'investir. Donc forcément, à ce moment-là, il y a un cadre qui est pas le même, et forcément des fois ça va un peu vite, mais moi je trouve que ce jeune homme, il le porte très très bien. Et cette scène que vous décriviez, référence au Parrain 2, où il regarde par le balcon, il y a déjà de la mélancolie, il y a déjà quelque chose qui va pas, et c'est très bien que Bon, bah, c'est presque déjà fini puisqu'il est effectivement à la fenêtre et il peut, et tout le monde lui dit bonjour. C'est déjà le début de la fin, mais il y a un choix qui m'a beaucoup plus troublé. Là, c'est pas vers le parrain 2 que j'irai, c'est le choix de la jeune comédienne, Viviana Aprea, la jeune fille dont Francesco est amoureux, qui est quand même un peu un sosie d'Elizabeth McGovern, qui jouait donc dans Il était une fois en Amérique, qui était aussi un film qui commençait sa première partie sur des baby gangs, et je crois que c'est plutôt de ce côté-là que, ce qui est logique. Sergio Leone et c'est Claudio Giovanesi, c'est quand même cette référence-là qui me semble plus importante. Et là où vous parliez, alors, ni voyeur, non, voyeur et, je sais pas, ou moraliste, ou je sais plus comment vous le disiez tout à l'heure, Julien Gester. Ce qui m'intéresse, c'est que justement, il fuit les morceaux de bravoure. Les scènes de violence, elles sont effectivement assez inexistantes parce que c'est pas ça. Le sujet du film, c'est plutôt le... Oui, alors, c'est pas nouveau, hein, c'est la question de la vacuité, de l'existence de ces jeunes gens entrer dans les boîtes de nuit, faire le magasin pour acheter les dernières chaussures. Ça, c'est pas nouveau, mais là, moi, je vois plutôt une retenue pour mettre une distance. Et justement, c'est un film qui rejette l'idée d'identification au personnage, alors que c'est le sujet du film, l'identification. Et donc, moi, je trouve que cette distance, elle porte pour moi. Pas pour vous, Lucie.
Non, parce que le problème, c'est que parfois, il y a de la distance et parfois, il n'y en a pas.
Bah, j'en vois tout du long.
Moi, je vois un gros problème qui n'est pas seulement politique entre ces deux formes que je décrivais, c'est aussi un problème de cohérence narrative. C'est-à-dire que ce personnage que vous décrivez, il en est, il n'en est pas, c'est la question. Donc, il y a une scène où il n'arrive pas à rentrer en boîte de nuit parce qu'il n'a rien, qu'il n'a pas le bon t-shirt,
il n'est rien.
Et ça, c'est, on est dans la chronique sociale, c'est-à-dire qu'on comprend exactement quels sont les mécanismes sociaux qui font qu'il ne peut pas rentrer dans cette boîte. Deux minutes après, ou je ne sais pas, cinq minutes après, il se retrouve à rencontrer un des parrains locaux dans un appartement incroyable, comme j'ai décrit tout à l'heure, hyper doré, et à avoir une conversation déterminante en quelques minutes. C'est réglé. Bah, là, je vois un énorme problème de cohérence. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ce personnage, son ascension, elle n'a pas de sens. Le fait que les adultes soient complètement chassés du terrain, c'est intéressant. Sauf qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'ils sont quand même là. Il y a une scène d'initiation où ils apprennent à couper du shit en 30 grammes exactement, avec un personnage qui leur apprend. Cette scène, elle est longue. C'est un plan séquence. Ça dure longtemps. Enfin, il y a insistance sur la matière, sur la technique, sur comment on devient un mafieux. Et hop, 5 minutes après, on passe à une toute autre étape. Moi, je trouve qu'il y a un énorme problème de rythme qui pose des questions narratives.
Enfin, ils le rencontrent très logiquement, ce parrain de la mafia, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour le rencontrer. Enfin, bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Le temps file, Julien Gester, un dernier mot.
Je trouve justement que, enfin, bon, là-dessus, pour le coup, je trouve que c'est tout le propos du film. Enfin, c'est ce que le film essaie de raconter, que de dire que, justement, il n'y a pas besoin. Enfin, on voit bien que même quand il tente une forme de coup d'État, c'est en tirant en l'air, en quelque sorte. Enfin, je pense que c'est ce que le film essaie de raconter aussi, à un moment donné, d'une emprise mafieuse qui ne repose que sur une forme d'intimidation. Il y a une forme de coup de théâtre, de toute façon, qui est un coup de scénario, qui est peut-être fondé ou pas, documenté ou pas, sur le fait qu'à un moment donné, un coup de filet libère la place et ses gamins n'ont qu'à la prendre, au nom de cette idée qu'il faut être du quartier pour le tenir. Mais je vous rejoins sur il y a un truc récurrent qui résume un peu cette question d'ambivalence du film, voilà, sur qui ne choisit pas son point de vue. C'est-à-dire souvent ça revient dans les propos des personnages, c'est magnifique, c'est très beau qu'il parle d'une paire de baskets, d'une statue dorée, d'un opéra ou d'un fusil semi-automatique. Et le film, à part l'opéra peut-être, ne filme jamais, enfin le cinéaste ne filme jamais ça comme si c'était très beau, justement. Il est je trouve qu'il est vraiment toujours au-dessus de ces personnages.
À distance.
Oui, mais sauf que le reste du temps, il est dans une forme d'identification à la beauté, au charme, caractère vraiment enjôleur de ces personnages et de leur exultation et de leur ivresse de monter de cette ascension. Enfin, à aucun moment il est à distance de ces choses-là.
J'ai pas vu ça. Bon, Lucille Como, mais est-ce qu'il y a encore des films? Il y a encore un coup de cœur? Il est 19h42, c'est plus possible, on est très en retard. Il faut conclure et inviter nos auditrices et auditeurs à aller voir par eux-mêmes, comme toujours. Piranhas de Claudio Giovanesi.
C'est à cause d'une fille qui t'est venue me chercher? Non! C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il n'y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi?
Pourquoi moi? Je t'aime, Mona. Je t'aime tant. J'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime.
C'est l'heure du coup de cœur de Lily Bloom pour Série Noire d'Alain Corneau.
Oui, j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'adore, j'adore ce film, donc Série Noire.
Le choix.
D'Alain Corneau qui va être montré en version remasterisée le 5 juillet à 18h30 au Forum des Images dans le cadre de la rétrospective sur Patrick Devers donc qui a lieu du 26 juin au 11 juillet. Alors pourquoi il faut le voir? Parce que je pense que c'est le film dans lequel tout son génie se déploie et que c'est un chef-d'œuvre un petit peu parfois oublié ou considéré comme... poussiéreux et qu'il faut le redécouvrir. Alors, Série Noire, ça porte bien son nom, c'est un vrai film noir avec un anti-héros, un modeste représentant de commerce, un peu totalement fantasque, Patrick Devers, qui va rencontrer une vamp mutique, Marie Trintignant, jeune femme qui est prostituée par sa tante, et ensemble, ils vont décider de tuer la vieille dame pour récupérer le magot. Alors, l'engrenage est déclenché, ça va être une spirale infernale, et Patrick Devers, il va vraiment incarner jusqu'au vertige les délires de ce personnage. On est vraiment en marge, au bord de la folie, et de l'acteur et du personnage. C'est un film à la marge. Et je crois que plus je le revois, plus je suis émue en fait, de voir Devers qui est prêt à se briser à chaque instant. On repense à la scène dans la baignoire, dans le contre où il reste un petit peu trop longtemps, il reste toujours un peu au bord. Et la première scène de Série Noire, elle a l'image de tout le film. Il est seul sur un terrain vague. On est dans des zones abandonnées, dans les HLM au fond qui se dessinent. Et d'un seul coup, il va jouer au jazzman, au cowboy sur un fond de Moonlight Fiesta par Duke Ellington. Et il y a toute la poésie du film qui apparaît. Et en fait, il va lutter. Il y a une sorte de danse avec le destin. Et ce que fait Alain Corneau, qui est très intelligent, c'est qu'il va déposer il va utiliser un dispositif à plusieurs caméras pour le laisser vraiment jouer dans la longueur les scènes et aller jusqu'au bout de sa folie. Alors ça peut être contestable, il aurait pu se faire mal, mais c'est merveilleux. Enfin voilà, c'est un chef-d'œuvre à la poésie sombre, fascinante, tragique. C'est adapté donc du roman de Gilles Thompson et comme le disait Bertrand Tavernier, on sort de cette série noire comme si nous-mêmes on avait commis un meurtre et on est lessivé, épuisé et ébloui par la beauté du film.
Et sauf erreur, Georges Perec avait participé au scénario. Alors, film, c'est quand même pas mal.
Une des qualités justement qui donne une dimension surréaliste au personnage.
Série Noire d'Alain Corneau, prochainement au Forum des Images et puis partout où vous pouvez découvrir ce film.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier film à notre sommaire ce soir, c'est Être vivant et le savoir d'Alain Cavalier. Le cinéaste avait été bouleversé à la lecture de Tout s'est bien passé, livre d'Emmanuel Bernheim qui racontait comment l'avait aidé son père à mettre fin à ses jours après un accident cardiovasculaire. Alors Alain Cavalier avait contacté Emmanuel Bernheim et lui avait proposé de faire un film dans lequel il jouerait, lui, le rôle du père.
Alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas? À la fin du mois. C'est un petit incident de parcours qui est mais pas une seconde. Pas une seconde, et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein? Qu'on tourne maintenant, qu'on tourne dans quelques mois, quelle est la différence? Moi, je serais un autre dans 3 ou 4 mois, je ferais pas le même film. C'est tout ce que je peux dire. Hein? Et puis c'est tout. Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera. Hein? Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Bernheim, hein, que la grâce descende sur vous. Voilà. Voilà. Hein? Tout est bien. Voilà. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.
Comme on l'aura compris dans cette bande-annonce, évidemment, au moment de faire ce film, il se trouve qu'un cancer est diagnostiqué, Emmanuel Bernheim. On ne fera pas de premier tour d'impression. On va aller directement dans le sujet. Lucille Comeau.
Oui, c'est en effet pas un film sur une seule mort, c'est un film sur la mort d'à peu près tout le monde, y compris du réalisateur. C'est un film qui dresse divers hôtels. On est dans la veine d'Alain Cavalier qui filme avec sa petite caméra toute petite portative, et il filme beaucoup d'objets, notamment toujours des courges qui pourrissent au fur et à mesure, et aussi des petites sculptures. Donc il assemble, il colle des objets les uns avec les autres, et là il construit vraiment des hôtels. C'est plus qu'un film tombeau, c'est vraiment un film hôtel à plusieurs morts. Alors, c'est un film hyper sensible. C'est-à-dire que la sensibilité, c'est évidemment celle du sujet. C'est aussi celle des objets en question, qui sont toujours périssables, toujours à la limite de la déconstruction ou de la fin. Moi, je suis toujours sur un fil avec ce cinéma-là d'Alain Cavalier, parce que ça me met très mal à l'aise. À la fois, cette sensibilité-là, j'ai envie de l'embrasser, et du coup, ça pourrait faire que je pleure pendant tout le film. Et en même temps, ça, il y a quelque chose qui me gêne dans la douceur, dans ce qu'on entendait de sa voix, dans ces références à la grâce. On sent qu'il y a quand même un fond derrière, qui est un fond très profondément catholique, je pense. Donc quelque chose qui peut devenir un peu mystique très naïf, qui me met toujours au bord de la gêne, ou en tout cas de la désadhésion à ce qui est montré. Et en même temps, ça m'attrape, et je suis tout le temps, c'est très étonnant, surprise que ça m'attrape. C'est-à-dire que c'est un film qui peut terminer sur juste un plan d'un avion dans un ciel bleu avec un nocturne de Chopin, ce qui est quand même d'une banalité effarante, surtout pour un film sur la mort, et ça fonctionne. Mmh. Et du coup, tout le film, je me dis, mais pourquoi je pleure, mais pourquoi je rentre dedans. Donc là, pour le coup, c'est un sacré défi. Voilà, là,
critique.
Il faut dire aussi que c'est totalement, cette naïveté, elle est évidemment fin. C'est un niveau de construction et de mise en scène qui est, là ça se voit, parce que c'est aussi une forme d'art poétique, d'élaboration incroyable dans les jeux de miroir, dans les allers-retours entre ce qu'il filme, ce qu'il est en train de commenter, parce qu'il commente ce qu'il est en train de filmer. Et puis là, on a accès beaucoup, de plus en plus, à ces rushs, donc à un écran avec ce qu'on est en train de voir, mais légèrement décalé de quelques instants. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Si, si.
Mais ouais. En tout cas, évidemment, la naïveté, elle est feinte. Évidemment, la sensibilité, elle est construite. Mais il en reste que c'est compliqué pour moi, quoi, ce film-là.
Lily Bloom.
Mais ça marche. Alors, effectivement... Parce qu'il dit qu'il n'est plus un cinéaste, mais un filmeur, je crois. Et j'ai aussi le même réflexe par moment de vouloir m'en défendre en me disant non, c'est pas possible, c'est une fausse naïveté, parce qu'il maîtrise tellement bien toute l'amplitude, tout le spectre de la grammaire du cinéma. C'est effectivement, alors on pourrait dire il filme en DV, c'est une sorte de leçon de cinéma, il filme en toute petite DV, sans moyens, avec presque rien, quelques objets, un sujet. Et finalement, on est bouleversé. Et je crois que ce qui nous bouleverse, c'est qu'il nous permet de voir avec ses yeux aussi, ses yeux de vieil homme. Effectivement, il y a une dimension catholique. Il a un côté dans le cinéma comme Sainte Thérèse, dont il s'était inspiré. Il a ramené le cinéma au quotidien, aux petits éléments, comme elle l'avait fait avec la sainteté. Mais moi, il m'emporte par sa tendresse, par la force, en fait, de par exemple, il y a une scène au tout début où, donc, le film commence sur la mort choisie. Le point de départ, c'est l'idée de l'euthanasie et de choisir sa mort. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui n'a pas pu être, puisque la mort a décidé de devenir la mort subie de son interlocutrice et amie. Et donc le film a changé de forme en cours. Ce qui est aussi intéressant, c'est comme une Pietà inversée. C'est un pater doloroso avec sa fille de cinéma. C'est intéressant ce dialogue. Mais et voilà, il nous bouleverse. Il y a une séquence où il parle de son ami qui a décidé de partir à 12h30. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte on décide que c'est vrai. On apporte un crédit total à sa parole de vieil homme et de cinéaste. On accepte cette idée, et puis d'un seul coup, il filme juste, alors en faisant semblant d'avoir un problème de diaphragme sur sa caméra, une bougie qu'il va allumer en disant, elle m'a demandé d'allumer une bougie au moment de sa mort. Et là, d'un seul coup, d'être submergé par l'émotion, parce que vous voyez cette femme en train d'avaler le breuvage, le poison. C'est d'une force inouïe, avec si peu de moyens. Pour moi, c'est ça son cinéma, c'est cette force-là, avec si peu de choses, quoi, en main.
Julien Gester.
Non, mais c'est vrai qu'on oublie, il est facile de ramasser le film à cette question du film qui ne s'est pas fait, d'un double deuil, à la fois celui du d'un film à faire qui aurait été un film dans la veine peut-être Pater d'Alain Cavalier, et puis duquel a accouché de ce deuil, a accouché un autre film, de la même façon que de ces patates douces pourrissantes surgissent de nouvelles feuilles de vie, etc. dans le film, un autre film de la veine, d'une autre, cette autre veine qui est plutôt celle d'Irène, du filmeur, de Paradis. Et mais il y a ce premier chapitre qui est quand même que je trouve vraiment très au cœur ensuite du film. Donc voilà, qu'évoquait à l'instant Lily Bloom, d'une de cette autre amie qui choisit d'aller en Suisse subir une, enfin non, pour le coup recevoir une mort assistée. Et cet ami au début, il dit, je crois qu'il a cette phrase, il dit je n'ai pas filmé le visage d'Anne, mais seulement sa voix. Et je trouve que cette idée de filmer la voix de quelqu'un, ne pas dire enregistrer la voix de quelqu'un, mais de filmer la voix de quelqu'un, ça dit tout ce qui fait la force, la précision du cinéma d'Alain Cavalier, qui est de faire rentrer dans le champ du cinéma, de continuer de faire rentrer dans le champ du cinéma, dans le champ du filmable, des choses qui ne pourraient être qu'entendues, qui ne pourraient être qu'enregistrées, qui ne pourraient être que regardées mais pas filmées par d'autres ou ailleurs, etc. Et il y a ce moment plus tard dans le film où il revient d'une avant-première ou d'une projection qu'il présentait quelque part, et il dit qu'il s'est beaucoup agacé d'une question d'un spectateur qui demandait si vraiment ça valait encore le coup de faire des films, puisque voilà, on n'a pas fait le tour, enfin voilà. Et c'est vrai que Alain Cavalier est peut-être la dernière personne à qui demander ça, parce qu'à la fois il y a des choses dans le film, je rejoins un peu Lucille Comeau pour faire vite, sur lesquelles je bute un peu dans son mysticisme, dans sa manière de voir la grâce, ou vraiment dans des objets, dans des légumes, enfin c'est la trouver là où moi je ne la trouve nulle part, enfin dans la vie et dans son film en général. Donc j'ai aucune raison de lui en vouloir, mais c'est vrai que je bute un peu là-dessus, il peine à me transmettre ça. Autant je trouve que voilà, Cavalier dans ce film plus que dans d'autres de cette veine-là, parce que je trouve que c'est vraiment un de ses plus beaux, enfin de cette pente de filmeur justement, parvient vraiment tout du long par ses notations, alors même que c'est une forme de cinéma qu'on pourrait penser un peu obsolète, qu'elle a été ringardisée par Snapchat, YouTube, ce que vous voulez, toutes sortes de formes de caméras au point, en voix off, qui pointent exactement là où celui qui filme regarde, et improvise une forme de commentaire. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a une précision de ce cinéma et en même temps un rapport à la matière la plus banale, la plus simplissime du monde, qui permet à Cavalier, je trouve, de déployer quelque chose d'aussi sophistiqué, d'aussi virtuose peut-être que tout ce qu'on pouvait dire du film de Bong Joon-ho au début de cette émission, de trouver une profondeur dans des choses extrêmement simples faites comme ça, qui valent toutes les copieuses les échafaudages théoriques qu'on a pu plaquer sur Parasite, sur la question de la tension entre le filmé et le vivant, sur le cinéma et la mort, sur les multiples deuils que couvre ce film. C'est, je trouve ça magnifique.
Allez, dernier mot de Lucille Comeau sur ce film d'Alain Cavalier.
Non, mais parce que c'est complexe, en fait. C'est aussi extrêmement complexe. Moi, ça me rassure, peut-être je me rassure, hein, mais de me dire que ce film, sa force, ça tient pas à justement une forme de transcendance qui serait dans sa parole à lui ou dans sa voix, mais vraiment dans un truc technique, vraiment purement technique. Vous parliez de filmer la voix. Ce qu'il fait aussi beaucoup dans ce film, qui est, à mon avis, qui sont les meilleurs passages, c'est filmer l'écriture. Il filme des journaux qui sont des retranscriptions, par exemple, de ses coups de fil avec la fameuse Emmanuelle Bernheim. Et en fait, on a vu auparavant sur son bureau des pages qui étaient censément être le scénario du précédent film, et avec exactement la même graphie, la même encre, on imagine la même plume. Et dans ce vertige-là du doute qui s'instaure de « mais alors attends, est-ce qu'on est en train de voir vraiment ce que vient de lui dire Emmanuelle Bernheim, ou est-ce que c'est le scénario du film qu'il voulait faire avec elle ?» se joue un truc extrêmement complexe et qui est probablement beaucoup plus émouvant que Chopin. Allez.
Chopin. On finit avec le sifflement de la tempête qui arrive sur Paris. On parlait d'être vivant et le savoir d'Alain Cavalier à découvrir dans les salles. Et on conclut tout à fait avec le jeu de la dispute et avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse. Joséphine.
La question était dans lequel de ces films Louise Bunuel parodia la scène de Léonard de Vinci en remplaçant les apôtres par des mendiants, et la réponse était Viridiana.
Ce soir, nous vous avons gagné des invitations pour aller découvrir lors de la séance France Culture Zombie Child. C'est une avant-première en présence du cinéaste Bertrand Bonello. Avant-première qui aura lieu mardi 11 juin à 20h au Majestic Bastille à Paris. J'imagine qu'il y aura aussi Antoine Guillot qui sera là pour poser quelques questions à Bertrand Bonello. Quelle est la question, Joséphine ?
À quel célèbre film d'épouvante français daté de 1943, Zombie Child de Bertrand Bonello, se réfère-t-il ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales, tout cela est à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Elsa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Nicolas Depagraf, Marie Le Peintre et Lucas Derode. Réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. On se retrouve lundi à 19h pour une dispute consacrée au théâtre. Je serai avec Marie Sorbier, Caroline Châtelet et Philippe Chevier. Nous parlerons de Hors-la-Loi, texte et mise en scène de Pauline Bureau. Retour, Le père de l'enfant de la mère, texte de Frédéric Bradberg, mise en scène Frédéric Belli-Garcia. Je poussais donc le temps avec l'épaule d'après Marcel Proust, mise en scène Charles Tojman. Et puis un coup de cœur de Marie Sorbier pour la quadriennale de Prague.